VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par les élections au Cameroun, à Yaoundé. Le Conseil constitutionnel camerounais est en train de proclamer en ce moment même les résultats officiels de la présidentielle du 7 octobre, dont le chef de l'État Paul Biya est le grand favori. Le président du Conseil, Clément Atangana, a ouvert la séance à 11h heure locale, 10h temps universel, et la cérémonie est retransmise en direct sur les médias d'État. En 2011, lors de la dernière présidentielle, la proclamation avait duré près de 8 heures. Rappelons que le Conseil constitutionnel étudie les recours post-électoraux avant de proclamer les résultats officiels 15 jours après le scrutin. Des résultats qui ne peuvent plus alors être contestés. Cameroun toujours, au moins 30 personnes ont été interpellées dimanche en marge d'une manifestation interdite à Douala, organisée par un député de l'opposition. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Jean-Michel Nentche, député du SDF, avait donné rendez-vous à 15h sur un rond-point de Douala pour dénoncer les fraudes massives et honteuses qui ont marqué le scrutin selon l'opposition. Le sous-préfet de Douala 3, Nouo Bello, avait interdit la manifestation pour menace de troubles à l'ordre public. Monsieur Nentche ne s'est pas rendu à la marche. La police a encerclé son domicile. Il n'a pas pu sortir de la journée, a indiqué un membre de son parti. L'opposante Kawala a dénoncé sur les réseaux sociaux avoir été elle aussi en résidence surveillée totalement illégale dimanche après que des policiers ont pris position autour de son domicile jusqu'au soir. Monsieur Nentche avait déclaré début octobre soutenir la démarche de Maurice Kamto qui a revendiqué la victoire avant la proclamation des résultats. Le Conseil constitutionnel, après avoir rejeté 18 recours post-électoraux, doit proclamer les résultats officiels de la présidentielle ce lundi à Yaoundé.
En RDC, Karkera Premanata, directeur général de la société pharmaceutique indienne Zenufa, installée dans le pays depuis 1998, et le pharmacien responsable à Zenufa, Barthélémy Chikaya Kamengele, sont poursuivis pour contrefaçon de la quinine, concurrence déloyale et faux et usage de faux. C'est ce qu'a annoncé Luzolo Bambi, conseiller spécial du président Joseph Kabila pour la lutte contre la corruption, dans une lettre adressée au procureur général du parquet de Kinshasa, Matete. Vu que leur fuite est à craindre, nous avons décidé de leur garde à vue pour être à la disposition de l'officier du ministère public dans le délai légal, a précisé un inspecteur judiciaire commis au service du conseiller spécial Luzolo dans une autre lettre au parquet de Kinshasa. Les deux responsables de Zenufa sont détenus au parquet de Matete, selon une source judiciaire. La quinine, l'un des produits phares de la société Zenufa, est considérée comme le remède le plus efficace contre le paludisme en RDC, maladie qui vient en première position des causes de mortalité et de morbidité en territoire congolais. Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, plusieurs formations politiques et associations de la société civile malienne ont créé un mouvement nommé Convergence des forces patriotiques pour sauver le Mali, après le report des législatives, une décision que les groupes en question contestent. La nouvelle coalition est composée d'organisations dirigées par d'anciens candidats à la présidentielle, comme Moussa Cinco Koulibaly ou Oumar Mariko. C'est unique dans l'histoire du pays que des partis de l'opposition et de la majorité décident de former un même front, a déclaré à ce propos Oumar Mariko, leader du parti Sadi. Rappelons que les législatives ont été reportées à 2019 sur décision de la Cour constitutionnelle, prolongeant de 6 mois le mandat des députés à la demande de l'Assemblée nationale. Et toujours en Afrique de l'Ouest, le gouverneur de l'État de Kaduna, dans le nord du pays, où 57 personnes ont été tuées la semaine dernière dans des affrontements intercommunautaires, a décrété dimanche un couvre-feu de 24 heures dans la ville de Kaduna, chef-lieu de l'État en question. Les précisions de Nathalie Barge.
Le gouverneur Nassir El-Roufai a demandé aux habitants de respecter les consignes de ne pas sortir de chez eux. 55 personnes ont été tuées la semaine dernière dans des violences intercommunautaires à Kasuan Magani, à 50 km de Kaduna. Les violences ont éclaté jeudi à la suite d'une dispute sur le marché local. Des représailles ont été menées par des jeunes Hadara contre la communauté musulmane de la ville, où de nombreuses maisons ont été incendiées. Le couvre-feu a été décrété alors que des rumeurs se propageaient dimanche sur l'imminence d'autres représailles, des groupes de jeunes à Oussa commençant à vandaliser des voitures autour du principal marché de Kaduna. La zone de Kaduna est un foyer de tension traditionnelle entre les différentes communautés. La capitale de l'État éponyme a connu un pic de violence en 2002 lorsque plus de 3000 personnes ont été tuées en quelques jours au cours d'émeutes liées à l'organisation du concours de Miss Monde censé se tenir à Abuja, auquel les musulmans étaient opposés et qui a finalement été annulé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On reste en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, l'excision est interdite, mais la pratique n'a pas disparu. À preuve, 50 filles ont été excisées à Ouagadougou, la capitale, et à Kaya, dans le centre nord du pays. Une découverte du ministère de la Femme il y a tout juste quelques semaines. Le gouvernement burkinabé entend punir de tels actes, nous dit le correspondant de VOA Afrique sur place, Lamine Traoré.
À une centaine de kilomètres de la capitale burkinabé, Kaya dans le centre nord, la ministre de la Femme est au plus grand centre hospitalier de la région. 10 filles sont internées là, dont 9 ont été excisées. Leur âge varie entre 4 et 15 ans. Selon les agents de santé, les filles sont arrivées dans un état critique. Il fallait vite agir pour éviter le pire. Docteur Honoré Tenderi, chef du département gynécologique et obstétrique.
Il s'est agi pour nous de réparer les séquelles d'excision et surtout arrêter l'hémorragie parce que ici c'était l'hémorragie qui était la priorité et ensuite vers les soins locaux pour éviter l'infection.
La ministre est sous le choc. C'est un drame. Laurence Ilboudo.
Je suis choquée aujourd'hui. Depuis des années, nous prônons l'arrêt de ces pratiques parce que ça ne peut aider la femme à progresser. Et il est vraiment déplorable aujourd'hui de constater qu'il y a encore des parents qui continuent à s'adonner à cette pratique.
À Ouagadougou, nous sommes cette fois-ci au centre médical protestant Chifra, l'un des grands établissements sanitaires de la capitale. Ici, le constat est amer. 41 filles qui ont entre 10 et 21 ans sont elles aussi victimes d'excision. Les séquelles peuvent être très graves jusqu'à la reproduction de ces filles. Docteur Dieudonné Ouedraogo est le responsable du service gynécologique et obstétrique de ce centre médical protestant.
Au vu du type d'excision et des infections qui s'annoncent déjà. Si on ne fait rien, elles vont mal cicatriser. Il y aura beaucoup de séquelles pour leur vie sexuelle et aussi pour leur vie de reproduction, notamment l'accouchement.
La pratique des MGF, mutilation génitale féminine, est illégale au Burkina Faso depuis 1996. Mais force est de constater que la pratique demeure répandue dans plusieurs parties du pays. Le gouvernement veut sonner la fin de la récréation en appliquant la loi dans toute sa rigueur. La ministre de la Femme, Laurence Ilboudo.
J'ai vu mon collègue de la justice qui a saisi le procureur. Les voies judiciaires vont être mises en branle parce qu'il faut que les gens comprennent que l'excision est interdite. Les lois doivent être appliquées dans leur rigueur.
Début octobre, Amnesty International, l'ONG de défense des droits de l'homme, via sa section du Burkina, a déclaré dans un communiqué l'urgence de protéger les filles contre les mutilations génitales féminines. En 2015, 67,6% des femmes burkinabè, âgées de 15 à 49 ans, déclaraient avoir subi l'excision, selon une enquête multisectorielle continue. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Actualité américaine pour terminer. Deux jours après le coup de tonnerre de l'annonce par Washington du retrait des États-Unis d'un traité majeur sur les armes nucléaires, le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, John Bolton, rencontre ce lundi à Moscou le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, pour des explications sur cette décision. Selon M. Lavrov, le retrait américain de cet accord signé au temps de la guerre froide, annoncé il y a deux jours par Donald Trump, le président américain, rendra le monde plus dangereux. Idrissa Seyoudi.
Cette visite prévue de longue date avant que le président Donald Trump n'annonce sa décision de retirer son pays du traité INF sur les missiles de portée intermédiaire conclu avec l'ex-Union soviétique pendant la guerre froide était déjà importante s'agissant du premier déplacement d'un haut responsable américain à Moscou depuis plusieurs mois. Mais l'annonce de Donald Trump samedi lui a donné encore plus de relief alors que les relations avec la Russie sont déjà au plus bas. John Bolton considéré comme un faucon de l'administration Trump, doit rencontrer Sergei Lavrov dans la soirée. Les responsables russes s'attendaient à ce que le conseiller américain leur explique la position de Washington sur le traité INF. Le conseiller présidentiel doit également s'entretenir durant son séjour avec le président russe Vladimir Poutine, mais cette rencontre n'aura pas lieu aujourd'hui, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.